planante et progressive, la musique de Vision Nocturne.
Bonjour, c'est Zanov. Vous allez écouter des extraits de mon nouvel album Lost in the Future sur Vision Nocturne.
Dans les studios de Kurtz Manfields, Jean-Luc Briançon, habitué de l'émission et partenaire de notre album Planetarium Century, me présente Zanov. Ce musicien aux 7 albums est remarquablement associé à l'aventure électronique que nous vous présentons depuis les débuts de Vision Nocturne. Zanov nous invite à un voyage dans le futur, son fil conducteur. Le futur, oui, mais un futur lointain. H.G. Wells en a rêvé, Zanov nous y conduit avec sa machine à explorer le temps musical, au point de nous y perdre, avec ce nouvel album Lost in the Future. Des premiers synthés analogiques au monde d'Arthuria, cette musique est intemporelle et scientifique même. La théorie du chaos longuement évoquée lors de notre rencontre guide l'intuition de Zanov. La version intégrale de cette rencontre sera disponible dans les liens et sur le site de Vision Nocturne. Écoutons ce maître, Zanov nous parle de son concept.
Bonjour, je suis Zanov. Je suis un des pionniers de la musique électronique en France, puisque j'ai commencé dans les années 75. J'ai sorti des premiers albums chez Polydor dans les années 77. J'ai sorti en tout 3 albums jusqu'à dans les années 80-82. Et après, j'ai fait un long break d'une trentaine d'années parce que c'était pas ma seule activité. J'étais ingénieur en informatique et j'avais donc à mener les deux choses de front et c'était plus possible. Et comme je voulais pas faire de la musique à moitié, à temps partiel ou de manière homéopathique, j'ai décidé d'arrêter et je me suis promis de reprendre quand j'aurai le temps. Et quand j'aurai le temps, ça voulait dire à la retraite. Voilà. Donc 30 ans après, en 2014, le premier jour de ma retraite, j'ai racheté du matériel nouveau et j'ai repris la création musicale. Depuis 2014, j'ai sorti 3 albums. Voilà. Et aujourd'hui, je viens pour parler de ma dernière création, Lost in the Future.
Zanov, cet album, Lost in the Future, se positionne comme une suite logique des précédents ?
Alors, je ne sais pas si c'est une suite ou pas une suite, en tout cas... C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu l'esprit un peu tourné vers le futur. Donc j'ai une obsession du futur. Ensuite, j'ai une culture scientifique assez développée de par ma profession, de par mes études, mais aussi parce que je l'ai cultivée après. Et puis la troisième chose, c'est que j'ai un petit peu le rejet de toutes les contraintes musicales, pour moi, que je dis qu'ils viennent du passé. C'est-à-dire tout le solfège, la structure des morceaux, l'instrumentation. Donc j'ai eu le besoin de créer ma propre musique. Donc c'est un peu la composition de ces trois éléments qui me caractérisent et qui caractérisent la musique que je fais. Pour aller plus loin, donc mon dernier morceau, donc Lost in the Future, je pense souvent au futur, mais bon, futur, moi, c'est donc quand je parle du futur, c'est le futur lointain, et ça me travaille pas mal dans ma tête, et je me dis, parce que le futur, c'est pas demain, après-demain, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 100 ans, c'est pas dans 1000 ans, ça peut être dans 1 million d'années, ça peut être dans 10 millions d'années. Quand je pense à ça, je me dis, mais qu'est-ce que ça sera? Quand je vois déjà à quelle vitesse va le progrès scientifique depuis un siècle, et je pense qu'on verra des choses qui sont complètement inimaginables, qui sont même au-delà de notre compréhension aujourd'hui. Quand j'ai fait mon album Lost in the Future, j'avais pas de concept en tête. Donc pour l'album précédent, j'avais un concept, pour celui-là, j'en avais pas. Et donc c'est a posteriori que je me suis posé la question, voilà. J'avais pas de concept au départ, mais qu'est-ce qui m'a travaillé pendant que je faisais cet album et qu'est-ce qui en fait a guidé les compositions de cet album? Et là, ça m'a paru évident que c'était ça. Voilà. Donc j'ai mes morceaux, j'ai pris un certain nombre de thèmes, de découvertes scientifiques ou de progrès scientifiques qui vont impacter très fortement l'avenir de l'humanité. Je les ai affectés au titre de mes morceaux. Et donc là-dedans, il y a une question que je me pose, c'est le monde quantique aujourd'hui qui est à l'échelle microscopique, qui a des effets qui sont complètement incompréhensibles quand on essaye d'y réfléchir à l'échelle humaine, mais on voit non plus que ces effets quantiques, progressivement, on les développe à des échelles de plus en plus grandes. Donc qu'est-ce que ça sera quand on aura des effets quantiques qu'on saura maîtriser à une échelle humaine visible pour nous? Quand on saura, par exemple, faire qu'il y a une interaction entre deux objets qui sont extrêmement distants, extrêmement gros, voilà, et qui soient instantanés. C'est complètement inimaginable comment va devenir la société. Donc qu'est-ce qui se passera quand la vie sera guidée par... On aura plein de robots partout, mais pas seulement des robots, des machines conscientes, donc des robots qui seront conscients, qui auront une conscience intellectuelle et une conscience aussi émotionnelle. qu'est-ce qu'on va devenir ? Comment sera la société quand on va communiquer directement d'un autre cerveau, un cerveau à un autre cerveau, sans parler, sans rien faire, et qu'on pourra par notre cerveau sélectionner ce qu'on, voilà, qu'est-ce qu'on veut transmettre, comme, je ne sais même pas si ça sera des mots ou pas des mots, ça sera même peut-être plus du langage, ça sera peut-être directement autre chose qui est complètement inimaginable. Qu'est-ce qui se passera quand on, là aujourd'hui, donc en science, donc on a la limite de la vitesse de la lumière, mais qu'est-ce qui se passera face à cette limite ? Ce qui n'est pas impossible, puisque toutes les découvertes scientifiques nous amènent à chaque fois à briser des barrières. Donc aujourd'hui, ça paraît impossible, mais tout ce qui est impossible aujourd'hui sera peut-être pas impossible demain. Tous ces sujets-là, ça me travaille. Je me dis, madame, si j'étais dans un monde comme ça, d'abord, je voudrais bien y être pour voir, parce que je serais curieux. Mais je lui dis, mais c'est complètement fou, on serait complètement perdu, quoi. Voilà. D'où mon album Lost in the Future.
Les planétariums en 100 ans. Zanov, tu as joué au planétarium du Palais de la Découverte en 1977. Que retiens-tu de cette expérience ?
Donc j'ai joué effectivement en juin 1977. C'était une des étapes d'une tournée que j'ai faite en France et qui a été un petit peu rétrécie parce que je n'ai pas fait toutes les salles qui étaient prévues. J'avais déjà été d'avant dans des planétariums parce que j'avais une culture aussi un peu astronomique. Mon père était astronome amateur. Donc, pour installer le matériel, déjà, on est au centre, voilà, et on installe le matériel. Déjà, c'est assez surprenant de voir, même quand la salle est vide et tout autour, on sait pas très bien, on est un peu perdu parce qu'il n'y a pas de scène, quoi. C'est 360 degrés. Le matériel, à l'époque, quand j'installais mon matériel, il me fallait 4 heures pour installer le matériel et le régler, parce que c'était des synthés analogiques, il fallait tout régler, chaque potard, un par un et tout. Et j'avais pas de personnel, je faisais ça tout seul. C'était pas une tournée Pink Floydienne avec 100 camions de 15 tonnes et 200 personnes. Non. Donc c'était à la fois, je dirais pas impressionnant, mais un peu bizarre comme environnement par rapport à une scène classique. Et après, quand on joue, donc effectivement, juste au début, là, quand on commence, on est hyper concentré parce que faut se concentrer sur ce qu'on fait. Il faut à la fois pouvoir exprimer ses émotions, s'exprimer musicalement, mais aussi pas faire d'erreurs techniques et maîtriser la technique. Et ça, c'est pas facile de faire tout ça en même temps. Et donc, au début, donc, quand ça commence, donc, on voit un petit peu des étoiles qui apparaissent et tout. Donc, ça fait un peu bizarre. Mais après, une fois que ça s'est passé, on est tellement concentré dans la musique et sur ce qu'on fait, qu'à la limite, je veux dire, on oublie qu'on est dans le planétarium. Et c'est après, quand on a fini à la fin du concert aussi, qu'on reprend conscience de l'environnement et qu'on était dans un environnement particulier. Mais moi, personnellement, pour être sincère, ça n'a pas influencé ma manière de faire de la musique parce que j'ai été dans un planétarium.
Alors Zanov, si tu peux maintenant nous parler de l'évolution du matériel que tu as utilisé depuis les années 70 et les retrouvailles avec ce matériel à partir de 2014.
Avant de faire la musique électronique, j'ai commencé le piano très tôt, quand j'avais 6 ans. J'aimais pas du tout ça, j'étais complètement dégoûté par le piano, la musique classique, parce que je jouais du piano, mais moi j'écoutais ce que je jouais, puis pratiquement rien d'autre, et donc c'était horrible. Et donc j'avais pas de motivation, pas de référence, rien du tout. Donc j'ai arrêté le piano, bon, j'avais 13-14 ans. Quand j'ai eu 17 ans, je me suis acheté une guitare électrique. Alors là, j'ai dit, je vais pouvoir commencer autre chose. Donc effectivement, j'ai approfondi la guitare, j'ai joué, j'étais dans des groupes, j'ai joué dans des boîtes de nuit. Et puis après, j'arrivais pas à faire les sons que je voulais. J'avais plein de sons dans ma tête, j'avais plein de choses, et je pourrais pas les retranscrire avec ma guitare. Et donc je me sentais complètement prisonnier. Mais là, j'étais bloqué. Il se trouvait qu'au début de ma profession d'ingénieur, donc j'ai fait un stage à Londres pour perfectionner mon anglais. Et là, j'ai dit, je vais aller faire la tournée des boutiques de musique pour voir tout ce qu'il y a. Et dans une des boutiques de musique, j'ai rencontré un Français qui a fait un album plus tard sous le nom de Serge Ramsès. Et là, il m'a montré que dans les boutiques, il y avait des synthés. Et là, j'ai découvert les synthétiseurs dans des boutiques à Londres. Donc avec lui, on a fait d'autres boutiques, on a regardé les synthés. Et donc, quand je suis rentré à la maison, j'ai été dans quelques boutiques à Paris et j'ai acheté un VCS3 qui était mon premier synthé. Parce que j'avais fait une analyse un petit peu des choses et je savais que j'avais besoin de liberté Et donc, il me fallait absolument un synthé qui me donne beaucoup, beaucoup de liberté sur les possibilités de faire de son. Et j'avais trouvé que le VCS3 était bien pour moi. Et puis après, j'ai voulu commencer à créer, à enregistrer. Et donc, j'ai acheté un Tech 4 pistes, une petite table de mixage. J'ai acheté un Revox à 77 pour pouvoir faire du délai. Et puis, c'est avec ça que j'ai composé mon premier album, Green Ray, avec un seul synthé. Donc, c'est pas facile parce que j'avais que 4 pistes pour enregistrer. Et donc, quand on a 4 pistes, mon morceau devait avoir une certaine consistance. Donc, je ne peux pas enregistrer des petits bouts par petits morceaux parce que ça n'avait pas de sens. Donc, j'enregistrais tout un morceau, du début jusqu'à la fin, sur 2 pistes. Et après, j'utilisais les autres pistes en mono ou en stéréo pour faire rajouter des sons, faire des compléments. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Après, donc, mon contrat avec Polydor a été signé. J'ai acheté un ARP 2600 et un séquenceur ARP. Donc, déjà, ça m'a permis de faire beaucoup plus de choses. Et c'est avec ça que j'ai composé le deuxième album, Mobius, qui est sorti à peu près un peu moins d'un an après. Juste après le concert du Planétarium, quand j'étais en concert, en fait, j'avais mon ARP 2600 et puis mon VCS3, mais j'avais aussi la société Gaffarel qui me prêtait un deuxième ARP 2600 et qui me prêtait aussi de temps en temps un autre clavier. Donc je sais même pas la marque. Je sais qu'une fois, j'ai eu un Omni sur scène, mais après les autres, je ne sais plus très bien ce que c'était. En fait, c'était des claviers qui faisaient des strings, plus ou moins. Donc, il me manquait quelque chose dans mes sons. Et donc, j'ai refait un peu la tournée de boutique, et à une boutique, c'est à Montreux, je crois, à Piano Center, j'ai découvert le RMI, donc qui est un synthétiseur qui fait de la synthèse additive, dans lequel on peut, quand on crée un son, monter les harmoniques un par un, du fondamental jusqu'au 17e harmonique. Et ça sur 2 voix. Donc j'ai encore pris un crédit supplémentaire parce que j'ai marché avec des crédits pour pouvoir m'acheter le matériel. Bon, heureusement que j'avais mon métier d'ingénieur, sinon j'aurais pas pu faire ça. Ça c'était venu complémenter mon équipement. Donc avec ça, j'ai créé mon troisième album, In Course of Time. Et après, je me suis lancé dans la création d'un quatrième album. Alors là, c'était quelque chose encore de plus particulier, c'est-à-dire que les sons, bien, mais il me manquait le visuel. Et puis il me manquait aussi que je voulais exprimer des choses avec des paroles. Pour les paroles, donc, j'ai acheté un vocodeur. Ça doit être un Roland SVC, je ne sais plus combien, un peu sophistiqué. Et puis pour le visuel, j'ai trouvé une société de production vidéo à Paris qui avait un truc très rare, qui était un synthétiseur vidéo analogique, justement de la marque EMS, qui était la même marque que ceux qui faisaient le VCS3, et qui me donnait accès à leur studio tous les samedis. Donc tous les samedis, moi j'habitais à 20 km de Paris, j'allais à Paris, et j'avais les clés du studio pour faire ce que je voulais. Donc j'avais commencé comme ça l'enregistrement d'un quatrième album. Pour les paroles, j'avais trouvé un scénariste qui avait un style qui me plaisait bien, qui était devenu un copain d'ailleurs, et je lui ai dit un petit peu ce que je voulais dire. Voilà. Et donc c'est lui qui a écrit des paroles sur ce que je voulais dire. Et en fait, le morceau s'appelait « Nous reprenons notre avenir ». Musicalement, c'était des paroles, c'était parlé, ça c'était pas chanté. De toute façon, après, la modulation faisait avec le vocodeur. Pour pouvoir enregistrer ça, donc j'ai modifié mon équipement. Je suis passé du 4 pistes en 8 pistes. Donc j'ai acheté un Tascam 8 pistes avec des réducteurs de bruit, des BX pour avoir la meilleure qualité possible, une table de mixage qu'elle est avec. Et puis j'ai enregistré. Alors après, il s'est passé 2 choses. La première chose, c'est que le studio vidéo, il a fermé. Donc j'ai dû arrêter l'aspect vidéo. Et la deuxième chose, c'est que quand j'ai travaillé un peu plus le mixage de la voix, donc des paroles avec la musique, j'ai pas réussi à trouver quelque chose de satisfaisant parce que soit je mettais trop en avant le vocodeur et puis c'était très musical mais c'était pas compréhensible, ou soit je le mettais moins en avant. À ce moment-là, on comprenait les paroles, mais c'était moins musical et ça ne me convenait pas. Et donc, j'ai laissé tout ça en suspens. Puis, j'ai pris ma décision d'arrêter et de faire mon grand break. Donc, en 2014, quand j'ai repris, je me suis dit, il faut que je fasse le lien entre mon passé et puis maintenant mon nouveau présent. Donc, j'ai repris toutes ces bandes-là, j'ai tout numérisé et j'ai viré les voix, j'ai viré le vocodeur. Et j'ai complété la musique avec un synthé que j'ai acheté qui s'appelait un Arturia Origin. Donc l'Arturia Origin, c'est un synthé numérique avec un écran, mais qui donne des fonctionnalités de modulaire. Sauf que les modules, on les met sur un écran et on les connecte comme on veut. Donc ça donne encore des facilités de connexion qui sont encore plus extraordinaires qu'avec tout le matériel que j'avais. Donc j'ai travaillé, complété avec cet Arturia Origin. Bien sûr, il fallait que je remette des moyens d'enregistrement, donc j'ai acheté un gros Mac, un Pro Tools, des bons disques et tout. J'ai acheté une bonne table de mixage qui me servait de surface de contrôle pour Pro Tools aussi, qui était une Behringer X32. Et voilà, et j'ai sorti assez tôt en 2014 Virtual Future. Donc Virtual Future, c'est un petit peu une translation pas trop compliquée à comprendre de nous reprenons notre avenir. Voilà. Donc ça exprimait un petit peu le fait que l'humanité se laisse trop aller, se laisse trop guider par des coutumes, par des religions, par des choses, non rationnelles, et qu'il fallait arrêter cette irrationalité pour reprendre en main notre futur et pouvoir aller progresser dans un sens qui est plus positif pour l'humanité. Donc on pourrait voir ça un petit peu aussi comme quelque chose d'anti-religieux, mais bon, le but c'était plutôt voilà, comment on fait pour reprendre en main notre avenir. Donc ça, c'était en 2014. Ensuite, j'ai complété l'équipement, j'ai découvert un vendeur, puis j'expliquais à chaque fois ce que je recherchais, et il y en a un qui m'a dit voilà, je sais exactement le synthé qu'il faut, c'est un virus TI. Moi, j'ai analysé, j'ai étudié le virus TI, etc., et j'ai dit ok, c'est ça qu'il me faut. Et donc j'ai acheté un virus TI, et c'est avec ça et l'Arturia Origin que j'ai enregistré l'album suivant qui s'appelle Open World. Là j'ai fait des morceaux qui étaient un petit peu plus courts, parce que bon, j'ai l'impression qu'en vieillissant, les morceaux longs, ça me paraissait un peu trop long, et donc j'avais tendance en vieillissant à faire des morceaux un petit peu plus courts, un peu plus denses, c'est-à-dire qu'il y avait autant de choses à l'intérieur que des morceaux lents, mais plus resserrés. Voilà, c'est comme ça que je ressentais ça. Donc je fais ce que je ressens, je ne me pose pas des questions. Ensuite, je suis passé à l'album suivant, donc j'ai complété mon équipement avec un Arturia Matrix Brut. Donc l'intérêt de l'Arturia Matrix Brut, c'est donc ça, c'est un synthé. Alors celui-là, il est vraiment analogique, monophonique ou paraphonique, alors que le Virus et l'Arturia Origin sont des synthés qui sont polyphoniques. Donc avec le Matrix Brut, ce qui m'intéressait, c'était toutes les capacités de connexion des modules et toutes les capacités de séquenceurs qui étaient fournies par la matrice. Avec tout ça, j'ai fait l'album suivant qui s'appelait Chaos Islands. Là, c'était vraiment un album concept, c'est-à-dire que j'avais le concept avant de commencer ma musique. Et ce qui me travaillait à l'époque, qui a aussi un rapport avec le futur, c'était que j'avais découvert et étudié la théorie du chaos. J'avais découvert dans les années 80, oui, dans le milieu des années 80, je pense. La théorie du chaos, ça m'a apporté une réflexion et qui m'a donné un petit peu quelques réponses à un certain nombre de questions que je me posais, qui étaient des questions de l'aléatoire par rapport au déterminisme, comment va l'évolution. Donc il faut savoir que la théorie du chaos, c'est quelque chose qui n'est pas très très connu, que beaucoup traduisent par l'effet papillon, enfin qui n'a pas beaucoup de choses à voir, enfin c'est un résumé très simple. Et moi, j'ai essayé de le résumer, un résumé un petit peu plus complet. Donc, je dirais pour moi, la théorie du chaos, c'est comment des règles qui sont très, très simples, vraiment très simples, et qui n'ont rien du tout d'aléatoire, donc qui sont complètement des règles complètement déterministes, peuvent créer des systèmes qui sont extrêmement compliqués et qui ont un comportement qui est imprévisible. Et donc, il faut la théorie du chaos pour comprendre ça. Une fois qu'on a compris ça, moi, ça, c'est ça qui a guidé ma vie depuis les années 85, qui a guidé ma manière de faire de la musique, qui a guidé ma manière de faire des structures, d'organiser mes morceaux, d'organiser mes structures musicales. Donc, j'avais des morceaux en Chaos Island qui représentaient certains thèmes de la théorie du chaos. Et puis, comme c'était un peu brutal, bon, j'ai trouvé l'idée de dire, voilà, je vais appeler ça des îles. Donc, j'ai mis le mot Island derrière, mais... En fait, ça représente des thèmes de la théorie du chaos. Et puis après, je vous ai parlé, donc avec le même équipement, j'ai fait derrière Lost in the Future. C'est un petit peu long, mais c'est important au-delà des équipements de comprendre pour la démarche, pourquoi ces équipements-là. Ah oui, alors moi j'aime bien le rythme, mais j'aime pas les boîtes à rythme. Donc j'ai jamais mis de boîte à rythme dans mon équipement. C'est parce que dans les boîtes à rythme, jusque-là, on n'arrivait pas à part les sons de batterie qui étaient programmés et puis faire des choses un peu répétitives ou alors des choses qui imposent la structure du morceau. Une fois que c'est fait. Voilà. Moi, j'ai besoin de liberté quand je compose. Je ne structure pas mon morceau à l'avance en disant il y a ça, il y a trois mesures, il y a cinq mesures. Des fois, les mesures, ça n'existe même pas pour moi. j'utilisais pas de boîte à rythme. Et par contre, les sons de percussion sont un petit peu compliqués à faire avec les synthétiseurs que j'avais. Pour certains morceaux de Lost in the Future, j'ai acquis une boîte à rythme qui s'appelle une Tempest, un peu particulière, un peu sophistiquée, qui permet de faire à la fois des sons de synthé et à la fois des sons, des vrais sons de percussion qu'on peut mixer ensemble et travailler ensemble. Donc ça m'a donné la possibilité de rajouter un peu plus de percussion sur... Moi, j'ai dû l'utiliser sur deux titres principalement. C'est un usage pas, disons, complémentaire.
Avant d'écouter quelques extraits de Lost in the Future, Jean-Luc Briançon, Kurtz Manfields, tu nous accueilles ici dans tes studios. Alors, Zanov.
Moi, j'ai rencontré Pierre, donc Zanov, au Soundfest, et c'était vraiment une super rencontre. Et je me suis aperçu rapidement qu'il habitait pas loin de chez moi, dans la région lyonnaise. Et petit à petit, il faut le dire, il est venu de plus en plus au studio, jusqu'à ce qu'il y a à peu près il y a 2 ans, j'ai eu le plaisir de le voir arriver avec les prémices de son nouvel album et me faire le plaisir de faire écouter au studio. Donc, on écoutait au studio. Et en fait, pendant ces 2 ans, j'ai vu toute l'évolution de l'album, chaque titre arriver, les modifications. Et petit à petit, je suis rentré aussi avec lui dans son univers. Ce qui fait qu'au final, quand il m'a dit à un moment donné qu'il avait quasiment terminé l'album, je lui ai proposé de faire le mastering ici, qu'on puisse expérimenter. Alors, il faut savoir que Zanov, il maîtrise totalement son univers musical, son son. Mais bon, le mastering, c'est pour finaliser le CD, faire que le son passe partout, quelques opérations techniques. Et on a pris plaisir, une journée, à finaliser complètement l'album, le masteriser, le préparer la matrice. Ça lui plaire comme phrase, préparer la matrice, pour qu'il soit ensuite disponible auprès de tout le monde. Et donc, ma participation, ça a été l'observateur, et puis le plaisir d'écouter petit à petit cet album se construire. Il revenait à peu près tous les 6 mois me voir avec l'évolution de l'album. On a finalisé ici et moi je suis très fier.
Vision nocturne, les oreilles dans les étoiles.